de Noël. L'âne têtu et le délicieux chardon. Quand Saint Joseph apprit en songe qu'il devait avec sa famille fuir la méchanceté d'Hérode sur l'heure, l'ange alla dans l'étable éveiller l'âne. « Debout, lui dit-il, il faut que tu emportes la Vierge Marie et le Seigneur jusqu'en Égypte. » Ça ne plut pas à l'âne. Il faut bien vous dire que ce n'était pas du tout un âne dévot. C'était plutôt une mauvaise tête. « Tu ne pourrais pas te charger de l'affaire ? » répliqua-t-il en grognant. « Tu as des ailes, toi ? Mais moi, je dois tout véhiculer sur ma bosse. Et pourquoi tout de suite jusqu'en Égypte, au bout du monde ?»«
C'est comme ça, » dit l'ange, « c'est comme ça. »
Et en effet, c'est comme ça qu'on se fait comprendre des ânes.
Oui, mais quand il sortit de l'étable, qu'est-ce qu'il vit ? Quel bagage lui avait préparé Joseph ? Toute la literie pour Marie, un paquet de l'ange pour l'enfant, la cassette contenant l'or des rois, deux sacs d'encens et de myrrhe, une grosse meule de fromage, de la viande fumée donnée par les bergers, enfin une outre d'eau. Et la Vierge Marie et l'enfant, tous deux d'un bon poids. Alors l'âne se remit à grogner, mais personne ne comprenait ce qu'il voulait dire. Seul l'enfant Jésus le devina.
« C'est toujours comme ça, » grommelait l'âne, avec les mendiants. « En arrivant, ils n'ont pas un crouton. Et quand ils déménagent, ils emportent la charge d'une paire de bœufs. Je ne suis tout de même pas un camion routier. » Et en effet, il avait tout l'air de ça quand Joseph le tira par le licou. À peine y voyait-on encore le bout des oreilles et de la queue. L'âne courba le dos pour bien équilibrer les bagages. Puis, tout doucement, fit un pas, persuadé que la tour devait s'écrouler sur lui dès qu'il aurait avancé la patte.
Oh, miracle ! Il se sentit tout à coup merveilleusement léger, comme si lui-même était porté. Et le voilà qui dansa dans la nuit noire sur la pierraille et les ornières.
Et puis tout à coup, il planta ses quatre pattes dans le sable et ne voulut plus avancer, car le diable lui avait soufflé à l'oreille. « Si tu voyais de quoi tu as l'air avec ce train de bohémien !» Il ficha sa tête entre ses pattes et se mit à renacler sous le bas furieusement. « Qu'il ose me frapper, » dit-il exaspéré, « je lui envoie toute sa marchandise dans le fossé. » Mais Joseph ne le battit pas. L'âne sentit une main qui remontait le long de son cou et se mit à le gratter doucement entre les deux oreilles.
« Allons, » dit doucement Joseph, « marchons encore un peu, nous arriverons bientôt. »
L'âne poussa un soupir et se remit en marche en se disant, « C'est certainement un grand saint, mais il n'a aucune idée de la façon dont on dresse les ânes. » Pendant ce temps, le jour s'était levé, le soleil commençait à taper. Joseph trouva un bosquet tout sec, tout épineux, et voulut faire se reposer Marie sous son ombre misérable. Il détela et alluma un feu pour cuire la soupe. L'âne regardait plein d'impatience. Il attendait sa propre pitance. Or, il ne trouvait dans tout le chargement pas même de quoi s'emplir le museau d'une bouchée de paille. Car Joseph, tout occupé de la femme et de l'enfant, avait simplement oublié la ration de foin pour le pauvre âne. Tout à coup, celui-ci se sentit pris d'une faim atroce et, cette fois, renacla si fort que Joseph, épouvanté, regarda tout autour, croyant qu'un lion était en chasse dans les buissons. Cependant, la soupe était cuite et tous en mangèrent de bon cœur. Marie en mangea d'abord, puis Joseph finit le reste à petite cuillerée. Quant à l'enfant, il but d'un trait au sein de sa mère. Seul le pauvre âne regardait d'un mauvais œil ce festin, sans avoir le moindre brin de foin à se mettre sous la dent. Rien, absolument rien ne poussait en ce désert, que de rares chardons entre les cailloux. « Seigneur, » fit-il furieux, et il se mit à adresser un grand discours à l'enfant, en langage d'âne, évidemment, mais pas bête du tout, et disant clairement tout ce qu'une pauvre créature peut dire à Dieu dans sa peine.
« Hi-ho, hi-ho, Ia.
Ce qui signifie « aussi vrai que je suis un âne ». L'enfant écouta tout ce discours attentivement. Quand l'âne eut fini, il se pencha et cueillit une tige de chardon qu'il offrit à l'âne.
« Un chardon ? » grommela-t-il, profondément blessé. « Un chardon à manger ?
Mais sais-tu bien, dans ta sagesse, ce qui va arriver ? Les piquants vont me déchirer le ventre, j'en mourrai. Et comment irez-vous en Égypte ? »
Rageur, il mordit le dur chardon, mais resta bouche bée, car le chardon n'avait pas le goût qu'il croyait. Il avait le goût du plus mielleux des trèfles, le plus parfumé des fourrages.
À moins d'être un âne, vous ne pouvez pas vous faire une idée de ce que c'était bon.
Et le grison, oubliant sa colère, coucha pieusement ses deux longues oreilles l'une contre l'autre, ce qui est pour les ânes aussi expressif de la prière que quand nous joignons les deux mains. Il faisait sa prière en remerciement, en action de grâce. Il avait bien mangé ce chardon qui était fameusement délicieux.